franceinter.fr.
Voici donc la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par le retour dans la presse ce matin d'un ex-grand patron.
J6M, ça vous rappelle quelqu'un? Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde. Alors c'est le surnom que les guignols de l'info avaient donné à leur ancien patron, celui de Vivendi Universal, au temps de sa splendeur dans les années 2000. Jean-Marie Messier, qui après sa chute a monté une banque d'affaires, reparaît ce matin pour une interview exclusive au Figaro Économie. Entretien dans lequel il s'exclame « Vivement Macron 2, Macron 3 ». Alors pourquoi un tel engouement? Eh bien parce que Jean-Marie Messier est aujourd'hui convaincu que face à la révolution digitale, l'Europe hyper régulatrice est archaïque, dit-il. Et qu'il faut donc que la France mette en place un environnement qui valorise le risque et la culture entrepreneuriale, histoire d'avoir nous aussi nos Google, Apple, Facebook, Amazon et autres Uber. J'insiste, dit-il, ce changement n'est pas une mode, mais un mode de vie, il va s'enraciner et durer. L'ubérisation de l'économie nous conduit vers un monde prodigue, prédit Jean-Marie Messier, un monde d'abondance, de multiplication des possibilités. Mais il faut apprendre à domestiquer, dit-il en vieux sage qu'il est devenu, ce monde prodigue.
Ce monde prodigue, celui issu de la révolution numérique, c'est tout l'enjeu de la future loi Macron, Macron 2, dont on connaîtra les contours aujourd'hui.
Une future loi que le ministre de l'économie a ingénument baptisée NOE, Nouvelles Opportunités Économiques. Un acronyme SAMUS Libération qui renvoie au moins autant au déluge qu'à l'espoir d'y survivre. Question déluge, la révolution numérique promet au moins dans un premier temps de ravager l'emploi. Selon une étude britannique, 47% des emplois sont menacés par la numérisation. Question espoir, il s'agit pour Emmanuel Macron de donner au secteur traditionnel les outils pour concurrencer les nouveaux acteurs, mais aussi d'encourager tous ceux qui se lancent dans cette nouvelle économie, la seule susceptible aujourd'hui de créer des emplois. Lecture contradictoire pour la presse ce matin, quand Libé, sous la plume de John Hufnagel, insiste pour que l'État reste stratège dans l'accompagnement de cette révolution, Nicolas Bétou, dans l'Opinion, appelle Noé à résister au flot envahissant de l'État, ce Léviathan. Alors en attendant de connaître les visées précises du ministre de l'Économie, qui a décidé cette fois de faire œuvre de pédagogie sur l'élaboration de sa loi, souligne les Échos, on peut s'inquiéter avec Rue 89 des changements induits par cette révolution numérique. Vous savez Patrick que la grande idée de cette économie du partage, c'était de dire « bah super, vous n'avez plus de patron ». Eh bien figurez-vous que ça ne s'arrange pas de ce côté-là. Une étude de la New York University montre comment le système Uber, ses algorithmes, les évaluations de performance par les passagers, les mails envoyés en temps réel aux chauffeurs pour leur demander par exemple s'ils ont bien l'intention de travailler le week-end, eh bien tout cela se substitue en réalité à votre chef, petit ou grand. Les robots ne vont pas forcément vous piquer votre boulot, mais devenir votre boss, relève Rue 89. Bref, on ne sera même pas gagnant de ce côté-là.
Dans la presse également ce matin, Hélène, la campagne pour les élections régionales.
Et la mise au point du président de la Conférence des évêques de France, conférence réunie hier à Lourdes, Monseigneur Pontier, qui s'est clairement invité dans la campagne, en appelant les fidèles à regarder de près les programmes, fuyez la violence sous toutes ses formes, a-t-il dit. La violence verbale n'étant pas la moindre, propos relevés ce matin par Le Figaro et par La Croix. Pensez à la paix chez nous, en Europe, développer un langage d'ouverture et d'engagement. Des mots, nous explique Libération, qui sonne comme un rappel à l'ordre après les remous provoqués fin août par l'invitation de Marion Maréchal Le Pen à l'université d'été de l'évêque de Toulon. Et puis, faut-il être riche pour être candidat au régional? C'est la question posée ce matin par Aujourd'hui en France, Le Parisien, où l'on apprend que la tête de liste, Les Républicains en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Dominique Régnier, vous savez, celui qui fait ses listes sans l'aval de son président Nicolas Sarkozy, a réclamé une avance de 15 000 euros à ses têtes de liste départementales, 5 000 seulement à ceux qui ont moins de chances d'être élus. Chez nous, c'est l'euro million, grince un responsable local qui trouve la note un petit peu salée. Une pratique monnaie courante au Front National en 2010. Cette année, quasiment toutes les têtes de liste ont emprunté la totalité de leur budget en leur nom propre auprès de Cotelec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen. La famille a beau être brouillée, elle continue de faire des affaires ensemble, une pratique dont use avec beaucoup plus de parcimonie la gauche et le Parti communiste en particulier. Et puis, vous venez de l'évoquer avec Patrick Cohen, Pierre Laurent, mais l'humanité en fait donc sa une aujourd'hui et ses pages événements. La gauche au Portugal qui serre les rangs pour sortir de l'austérité, titre le journal communiste, avec cet accord en vue donc confirmé cette nuit entre les forces de gauche pour tenter de renverser le gouvernement du Premier ministre de droite, normalement investi, surmontant des divisions historiques historique, note Maude Verniolle dans son édito. Le Parti communiste et le Bloc des gauches seraient prêts à soutenir un gouvernement socialiste sur des propositions anti-austérité. C'est la première fois, insiste-t-elle, qu'un parti social-démocrate se rend à l'évidence désagréable de l'impasse des politiques d'austérité. Un signal fort, conclut-elle. Un signal qui est quand même loin encore de résonner aujourd'hui chez nous en France, Pierre-Laurent, non ?
Oui, mais les choses progressent. La preuve par le Portugal. Il y a ce qui est intéressant dans la situation au Portugal, c'est que le Parti socialiste a eu un débat. Il a failli choisir la grande coalition avec la droite et il a décidé de ne pas le faire.
Et vous voyez les prémices de ce débat chez nous ?
Malheureusement, on n'est pas dans la direction de cette situation, puisqu'on a au contraire, nous, pour le moment, un gouvernement qui s'entête à prendre chaque jour un peu plus de mesures d'austérité. Si on veut aller vers ce type de situation, il faut effectivement que pèsent plus lourd les idées anti-austérité dans la gauche. Parce que le Parti communiste portugais et le Bloco, c'est-à-dire les deux partis qui font partie de mes partenaires, pèsent au Portugal à l'issue de ces élections 20% des voix. Ça compte aussi beaucoup dans le rapport des forces.
Pierre,
donc effectivement, si nous étions plus haut, ça aiderait aussi.
La grande différence, c'est qu'au Portugal, ce sont des vraies politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre, avec diminution du nombre des fonctionnaires, gel des pensions de retraite, surtaxe sur les salaires, rien de comparable avec la politique suivie
en
France depuis
2012. On peut effectivement toujours trouver pire que ce qui existe chez nous.
Vous maintenez qu'ici c'est une politique d'austérité à l'image de ce qui est fait en Portugal ou en Espagne.
Écoutez, quand je lis l'accord sur les retraites complémentaires qui a été passé il y a quelques jours, parce que tout le monde en parle sans donner vraiment le détail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on aura 62 ans et l'intégralité de ses cotisations, eh bien on ne pourra prendre sa retraite qu'avec une décote de 10%. Donc nous sommes entrés, nous aussi, dans un cycle qui est un cycle d'abattement sur le niveau des retraites. Et d'ailleurs, toutes les statistiques le montrent, nous sommes en train de fabriquer une société de retraités pauvres. Donc les problèmes d'austérité, évidemment, il y a des pays où elles sont plus violentes encore que chez nous, mais je pense qu'on sous-estime beaucoup la gravité de la situation sociale en France. Et si on se penchait un peu plus sur ça, on comprendrait pourquoi nous sommes dans un tel désarroi politique dans le pays.
Pierre-Laurent, on vous retrouve dans quelques minutes avec les auditeurs de France Inter. On termine, Hélène, votre vie reste par l'école, pas l'école d'aujourd'hui, mais celle d'hier.
Avec un entretien passionnant pour le site de Télérama, télérama.fr, de l'écrivain Didier Deninx, à l'occasion de son dernier roman, L'école des colonies, dans lequel il met en scène un jeune instituteur métropolitain, nommé en 1945 en Kabylie. Un entretien dans lequel il revient sur quelques vérités liées aux bienfaits supposés de la colonisation encore colportée par certains. L'école, raconte-t-il, était un instrument de l'assimilation forcée des populations locales. Il s'agissait de mettre en œuvre un enseignement minimum pour former de bons serviteurs, de bons agriculteurs ou de bons soldats, mais avec évidemment des ambitions pédagogiques réduites, car il ne fallait surtout pas que les connaissances ne développent l'esprit critique. Tout était bon pour véhiculer les préjugés raciaux. Un seul exemple, pour apprendre le A dans un livre de lecture, on y voyait un maître proposer deux bonbons. Alors l'un à René, petit blond aux yeux bleus qui mange le bonbon, et l'autre à Ali, jeune Algérien à la peau bistre qui mange le cahier, puis le tableau, puis la craie. Morale de l'histoire, Ali est un âne pour mettre en valeur le A d'Ali et le A d'âne. Didier Deninx qui en profite pour rappeler à quel point ce terme d'assimilation, repris aujourd'hui par certains de leaders de la droite, est connoté. L'assimilation, dit-il, était la troisième phase de la colonisation après la conquête et la pacification. Voilà, c'était un utile rappel que le choix du vocabulaire est plus important que jamais aujourd'hui. L'intégration, ça a un sens, et l'assimilation aussi.
Merci Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter Didier Deninx, qui était il n'y a pas très longtemps l'invité de Charline Vadenacker, dont si tu écoutes...
J'annule tout.
J'annule tout, voilà, à 17h sur Inter.